Richard Ames. L'œuvre et la mission d'Élie. Le prophète Élie accomplit des miracles étonnants. Il livra une bataille spirituelle au prophète de Baal et affronta le méchant roi Achab. Il devait aussi tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, de peur que, selon la prophétie de Malachie, le Seigneur ne vienne frapper le pays d'interdit lorsque viendra le dernier Élie. Certains groupes parmi l'Église de Dieu croient que M. Herbert W. Armstrong était l'Élie dont l'avènement est prophétisé pour la fin de l'âge. Certains en ont même fait une question de salut. Si vous refusiez de croire qu'il était l'Élie qui devait venir, vous ne pouviez pas faire partie de ce groupe particulier de l'Église de Dieu. Dr. Meredith a abordé cette controverse à propos d'Élie dans un sermon ayant pour titre « La question d'Élie », sermon qu'il a donné le 5 mai 2001. Nous en parlerons un peu plus tard. Les disciples de Jésus l'interrogèrent sur l'Élie à venir, et Jésus répondit qu'Élie était déjà venu en la personne de Jean-Baptiste, qu'il était venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, posons-nous aujourd'hui quelques questions ou considérons certains points. Qui sera et qui est l'Élie du temps de la fin? Quel fut le plus grand accomplissement du prophète Élie? Quelles sont les similitudes entre la mission d'Élie et celle de M. Armstrong, de Dr. Meredith et de l'Église de Dieu aujourd'hui? Qui prépara le chemin pour la première venue de Christ? Qui va préparer le chemin pour la seconde venue de Christ? Nous allons répondre à ces questions aujourd'hui. Pour commencer, tournons-nous vers Malachie chapitre 4, où se trouve cette prophétie à propos de l'Élie du temps de la fin. Je vous donne ici le cadre et le contexte. Malachie 4, verset 1. Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Bien sûr, cela se produira durant le jour du Seigneur, lorsque les fléaux des sept trompettes seront déversés. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. C'est donc une prophétie pour les temps de la fin. Bien sûr, le jugement des nations est le thème principal de la fête des trompettes et du jour du Seigneur. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Dans son sermon intitulé « La question d'Élie », Dr. Meredith fait remarquer que, dans les Écritures, Moïse et Élie sont souvent mentionnés ensemble. Verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Eh bien, comme nous l'avons montré maintes fois, prophétiquement parlant, c'est la période d'une année qui précède le retour de Christ et qui s'achève par la septième trompette. Le jour du Seigneur est cette période d'une année qui précède le retour du Christ et c'est le thème du livre de l'Apocalypse dans son entier. C'est aussi le thème de plus de 30 prophéties dans la Bible. Le prophète Joël parle longuement du jour du Seigneur. Et si vous voulez en savoir plus sur le jour du Seigneur, je vous suggère de lire le livre de Joël. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dans certaines Bibles, frappé d'interdit est traduit par « causer une destruction totale ». C'est ce qui arrivera, à moins que ne vienne, avant le jour de l'Éternel, cet Élie prophétisé pour les temps de la fin. S'il ne venait pas, il y aurait destruction totale de la planète Terre. Nous y reviendrons sous peu. Mais il y avait ce deuxième Élie qui devait venir. C'était Jean-Baptiste, celui qui a préparé le chemin pour la première venue de Christ. Quand est-il apparu? Il est né avant le Christ, en fait 6 mois avant lui. Il n'y avait donc pas un grand intervalle de temps entre la venue de ce deuxième Élie et la première venue de Christ. Tournons-nous maintenant vers Luc chapitre 1, où nous jetterons un coup d'œil sur le deuxième Élie, comme on l'appelle. Dans Luc chapitre 1, se trouve une prophétie à propos de Jean-Baptiste, prophétie qui nous est transmise par l'ange qui parle à Zacharie, le père de Jean. Luc chapitre 1, verset 15. « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Jean-Baptiste était l'un des plus remarquables serviteurs de Dieu de tous les temps. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Nous verrons plus tard que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, contrairement à Élie qui avait fait descendre le feu du ciel. Donc, même s'il est dit que Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie, il n'a pas pour autant eu des signes ou des miracles à son actif. À nouveau, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il était de la responsabilité du premier Élie de ramener le cœur du peuple vers le Dieu d'Israël en le détournant du faux Dieu Baal. Notez que cela fait toujours partie de notre mission aujourd'hui, car nous aussi, nous devons préparer un peuple pour le Seigneur, pour le deuxième avènement de Christ. Le sermon de Dr. Meredith, auquel je vais parfois me référer aujourd'hui, a pour titre « La question d'Élie ». Il l'avait donné en mai 2001, et je vais en citer quelques extraits. Dr. Meredith déclarait dans ce sermon « Comme vous le savez, le premier Élie vint prêcher avec force à propos du vrai Dieu pour détourner le peuple de Baal et le ramener à la connaissance du Dieu véritable tout en lui inculquant une saine crainte de ce Dieu. Le deuxième Élie, Jean-Baptiste, venant dans l'esprit et la puissance d'Élie, fit revenir Israël et Juda à la connaissance du vrai Dieu tout en les amenant à se repentir de toutes leurs traditions et coutumes, de leur asservissement aux choses de ce monde et de leur laxisme. Cela montre ce qui a été prophétisé au sujet de ce deuxième Élie, et nous apprécions certainement tout ce que Jean-Baptiste a fait. Il a achevé la mission qui lui avait été confiée. Notre mission aujourd'hui n'est-elle pas également de tourner les gens vers la connaissance du vrai Dieu et de sa voix? N'avons-nous pas encore aujourd'hui la mission de préparer un peuple pour la venue de Jésus-Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs? Comment le premier Élie a-t-il tourné le cœur du peuple? Nous venons d'entendre cette belle aria chantée par Christopher Pringle. Considérons un peu ce qu'elle nous apporte. Si vous voulez en savoir plus sur Élie, je vous encourage tous à lire les chapitres 17 à 23 du premier livre des rois. Et nous allons nous tourner vers 1 roi chapitre 17 pour commencer. Il y est essentiellement question d'Élie, le Tishbite. 1 roi chapitre 17 verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Ainsi, Élie allait avoir le pouvoir d'appeler une sécheresse sur tout Israël. Achab était alors le roi de la maison d'Israël au nord. Nous savons qu'il y eut effectivement 3 années et demie de sécheresse et qu'ensuite, lorsque Élie pria de nouveau, la sécheresse s'arrêta. Continuons à présent dans 1 Roi, chapitre 18, au verset 1, où il est dit, 1 Roi, chapitre 18, verset 1, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Achab avait demandé à Abdias, chef de sa maison, de se mettre à la recherche d'Élie. Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel se mit à exterminer les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Lorsque Abdias finit par trouver Élie, ce dernier lui commanda d'aller chercher le roi Achab. Voilà donc qu'Élie est mis en présence du roi Achab. Verset 17. 1 Roi 18, verset 17. À peine Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Ainsi, Élie fit opposition à Achab, disant, « Ce n'est pas moi qui jette le trouble en Israël, mais c'est toi et ta maison qui êtes responsable de cela. » Verset 19. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. On assiste là à une de ces grandes confrontations dont il est question dans l'Ancien Testament, la confrontation avec les prophètes de Baal. Le verset suivant, le verset 21, est un verset clé, et si vous ne l'avez pas marqué dans votre Bible, faites-le. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. M. Gerald Weston a écrit un article dans la revue Tomorrow's World de septembre-octobre 2017, un article basé sur ce même verset. Son titre était « Vaciller entre deux opinions ». M. Weston y écrivait « Qu'en est-il de vous ? Vivez-vous votre vie comme si vous cherchiez vraiment l'immortalité ? Après tout, soit l'au-delà est une réalité, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors, qu'est-ce que cela représente à vos yeux ? Vivez-vous votre vie avec la pensée d'une résurrection en tête ? Ou bien exercez-vous votre religion et allez-vous à l'église pendant 1 heure chaque semaine, juste au cas où il y aurait une vie après la mort ou un jugement de quelque sorte ? Gardez votre place ici, dans 1 Roi chapitre 18, et revenons brièvement à Matthieu chapitre 6, verset 24, où Jésus dit, Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Élie avait défié le peuple d'Israël en disant, « Pourquoi vous arrêtez-vous entre deux opinions ?» Revenons maintenant à 1 Roi chapitre 18. On assiste là à une grande contestation avec les prophètes de Baal. Élie leur dit, « Procurez-vous un taureau, et je ferai de même. Et le Dieu qui répondra par le feu, qu'il soit Dieu. » Et tout le peuple acquiesça à cette proposition. Alors les prophètes de Baal commencèrent à mettre la viande sur l'autel, Puis ils implorèrent Baal de faire descendre le feu du ciel. Alors qu'ils agissaient ainsi, parfois Élie se moquait d'eux en disant « Vous devriez vous lamenter un peu plus fort. Il est peut-être en voyage. » Je suppose que si Élie vivait à notre époque, il se moquerait d'eux en disant « Oh, Baal est probablement accaparé par un jeu vidéo. Criez un peu plus fort, si vous voulez attirer son attention. » D'autres traductions de la Bible font aussi état du sarcasme et des moqueries d'Élie à l'endroit des prophètes de Baal. Après avoir imploré Baal toute la matinée, dans l'après-midi, selon leur coutume, les mêmes prophètes commencèrent à se faire des incisions jusqu'à faire jaillir leur sang, tout cela dans l'espoir d'attirer l'attention de Baal et de le faire agir. Finalement, on en arriva au sacrifice du soir. Toute la journée, les prophètes de Baal avaient imploré leur faux dieu et s'étaient fait des incisions dans la chair, mais en vain. À présent, c'était au tour d'Élie d'implorer son dieu. Combien de temps Élie a-t-il prié? Eh bien, si vous lisez 1 Rois chapitre 18, les versets 36 et 37, comme je l'ai fait, vous constaterez que la prière d'Élie ne prit qu'environ 24 secondes. Voyons-le. 1 Rois 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Verset 37. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Ce fut assurément une très courte prière quand on compare cela à toutes ces heures que les prophètes de Baal avaient imploré leur Dieu sans obtenir de réponse. À la suite de cette courte prière d'Élie, que s'est-il passé? Verset 38. « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Verset 40. « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Élie s'acquitta ainsi de la responsabilité que Dieu lui avait confiée. Dans la musique spéciale que nous avons entendue aujourd'hui, il avait été question de revenir de tout cœur à notre Dieu. On y disait notamment « Si de tout ton cœur, tu t'efforces de le rechercher. » Cela provient bien sûr de l'oratorio d'Élie que nous devons à Mendelssohn. C'est la partition vocale de l'Élie de Mendelssohn, un livre entier. Ma femme et moi avons assisté à une représentation de l'Élie de Mendelssohn. C'était à notre auditorium de Pasadena en janvier 1970. Nous nous demandions récemment quand cela avait eu lieu. Et ma femme avait alors mentionné à quel point cette représentation de l'oratorio d'Élie à l'auditorium de l'Ambassador College l'avait inspiré. Elle pensait que c'était peut-être en 1971 ou en 1972, mais nous avons appris depuis que c'était en réalité en janvier 1970. Comment l'avons-nous su? C'est parce que le pasteur de notre congrégation, ici à Charlotte, M. John Strain, avait chanté dans cet oratorio d'Élie qui fut présenté à l'auditorium de l'Ambassador College. Oui, M. Strain avait chanté tous les refrains de ce livre en 2 heures et demie. Après la mort de M. Armstrong, en janvier 1986, une autre représentation de l'oratorio d'Élie avait été donnée dans l'auditorium de l'Ambassador College. C'était durant les jours des pains sans levain. Et cette fois-ci, ma femme jouait dans l'orchestre avec d'autres musiciens. À l'époque, je me trouvais à Cincinnati, où je rendais visite à M. et Mme Bob League. Ce fut tout à l'honneur de M. Armstrong d'avoir l'oratorio d'Eli interprété durant les Jours des pains sans levain en 1986. Jetons juste un coup d'œil aux deux passages des Écritures qui mettent l'accent sur la nécessité de rechercher Dieu de tout notre cœur. Je les trouve tellement inspirants et j'espère que vous les avez marqués dans votre Bible. Le premier passage est Deutéronome chapitre 4, verset 29, où il est question de gens qui seront dans la captivité et à qui il sera donné l'occasion de se repentir, même s'ils n'ont pas voulu le faire plus tôt. Oui, lorsqu'ils seront finalement plongés dans la grande tribulation, cette occasion leur sera offerte à nouveau. Deutéronome 4, verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est une promesse pour nous tous, même aujourd'hui. Espérons que nous sommes tous animés de cet esprit qui nous pousse à le chercher continuellement de tout notre cœur et de toute notre âme. Un des adolescents parmi nous m'a dit que, de toute la Bible, c'est là son verset préféré. Le deuxième passage qui met l'accent sur la nécessité de rechercher Dieu de tout notre cœur est Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Voyons-le. Jérémie 29, versets 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Remercions donc Dieu pour les promesses qu'il nous a faites et réclamons-les, étant entendu que nous nous efforcerons de satisfaire aux conditions qui nous sont imposées pour y avoir droit. Recherchons-nous Dieu de tout notre cœur? J'espère que cela fait partie de notre caractère et fait partie intégrante de notre cheminement quotidien avec Christ. Il y a 2 semaines, M. Gerald Weston a donné un sermon intitulé Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette approche doit donc faire partie de notre nature, de notre caractère, et je prie pour tous les membres de l'Église afin qu'ils recherchent Dieu avec diligence, continuellement, fidèlement et systématiquement. Revenons à 1 Roi, chapitre 18, pour assister à la fin de la sécheresse après qu'Élie eut prié pour la pluie. 1 Roi 18, verset 41. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Cela fait suite à sa déclaration initiale 3 ans et demi plus tôt. Verset 42. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, verset 45, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Il partait donc du sommet du Carmel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Quelle est la distance entre le mont Carmel et Jizréel? Les commentaires bibliques parlent d'environ 27 kilomètres. Et c'est donc cette distance qu'Élie dut parcourir en avant du char d'Achab. L'autre jour au déjeuner, nous discutions de la façon dont ces chars de l'époque étaient menés, notamment du fait qu'ils avançaient péniblement par moments, alors qu'à d'autres moments, ils pouvaient rouler à vive allure. Il semble en tout cas qu'Élie n'était pas un vieil homme à l'époque, étant donné qu'il put parcourir ces 27 kilomètres et même arriver avant Achab. Je suis curieux. Je sais que nous avons quelques athlètes dans l'auditoire. Alors, veuillez lever la main, ceux parmi nous qui ont déjà parcouru le marathon, ce qui correspond à plus que 27 kilomètres. Bon, je vois qu'il y a 7 ou 8 mains levées. Bien sûr, cela ne vous qualifie pas pour autant pour être l'Élie à venir. Du moins, je ne crois pas. Toujours est-il qu'Élie ne semble pas avoir été un homme âgé à l'époque où il a couru ses 27 kilomètres. Notez aussi qu'Élie a dû prier 7 fois pour que la pluie revienne après ses 3 ans et demi de sécheresse. Cela me rappelle que nous avons un sermon dont le titre est « Persévérer dans la prière ». Tournons-nous à présent vers Jacques chapitre 5, où il est question de la prière qu'Élie adressa à Dieu. Notez-le dans Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous montre qu'Élie était un homme comme nous. Et Jacques nous dit ce qu'Élie a abordé dans sa prière. On apprend ensuite que sa prière a causé une absence de pluie pendant 3 ans et demi, même s'il n'était qu'un homme de la même trempe que nous. Dans les 2 versets précédents de Jacques chapitre 5, nous avons vu que la prière d'Élie avait été bien efficace pour contrôler la pluie, selon les instructions que Dieu lui avait données. Toujours dans Jacques chapitre 5, cette fois au verset 16, il nous est dit d'appeler les anciens de l'Église lorsque nous sommes malades. Voyons-le, Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Ça, c'était dans la Louis II, bien sûr. Quant à la Bible du Semeur, elle dit, pour Jacques chapitre 5, verset 16, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Il n'y a pas si longtemps, Dr. Scott Winnell nous donnait le sermon intitulé « La foi de ne pas être guéri ». Il y disait notamment « Même si votre prière, tout en étant efficace, ne vous amène pas la guérison, elle n'en est pas moins très utile. Alors, souvenez-vous-en. » Ainsi comme il est dit au verset 16, « Nous prions les uns pour les autres, afin que nous puissions être guéris. » Dans son livre « Message of James », Motillier fait le commentaire suivant à propos du livre de Jacques. À savoir que le mot « ichus » en grec signifie « force » en français, cette force qui rend une personne ou une chose suffisante pour la tâche. Motillier y fait aussi des commentaires sur la nature d'Élie. On vient de dire qu'Élie était un homme de la même trempe que nous. Eh bien, Motillier déclare ceci au sujet d'Élie. Il dit, je cite, « Élie pouvait atteindre les sommets de la foi et de l'engagement, comme nous le voyons dans 1 Rois chapitre 18, au verset 18 et 19, lorsqu'il défie les prophètes de Baal, puis il pouvait tomber dans le désespoir et la dépression, comme nous le voyons dans 1 Rois chapitre 19, verset 4, où il demande à mourir. Élie avait manifestement ses hauts et ses bas. Motillier enchaîne disant « Élie pouvait parfois être courageux et résolu, comme dans 1 Rois chapitre 18, au verset 17 à 19, lorsqu'il affronta le roi Achab et lui dit « C'est toi, au contraire, qui trouble Israël. » Puis, peu après, il pouvait fuir pour sa vie, comme nous le voyons dans 1 Rois chapitre 19, verset 3, quand Jézabel le menace. De même, Élie pouvait faire preuve d'altruisme envers les autres, comme nous le voyons dans 1 Rois chapitre 17, versets 19 à 24, où il ressuscite l'enfant mort de la veuve de Sarepta, et ensuite Élie pouvait s'apitoyer sur son sort, comme dans 1 Rois chapitre 19, verset 10, où il se plaint d'être le seul à être resté fidèle à Dieu. Dieu lui révéla alors qu'il restait encore 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Motillier poursuit avec ces mots, « En fin de compte, Élie était une personne ordinaire, mais il était juste devant Dieu, ou, pour reprendre la terminologie que l'on trouve dans les lettres de Jacques, sa foi était active dans ses œuvres, et cela lui fut imputé à justice, comme nous le voyons écrit dans Jacques chapitre 2, versets 22 et 23. Ainsi, Dieu a travaillé puissamment par l'intermédiaire d'Élie. Il était humain tout comme nous, mais il a rempli sa mission. Il a ramené le peuple vers le vrai Dieu, il a enseigné la voie de Dieu, et cette mission est la même que celle que nous avons aujourd'hui. Dieu a travaillé à travers M. Herbert Armstrong pour remplir cette même mission. Dieu a travaillé à travers Dr. Meredith pour remplir cette mission. Et Dieu travaille aussi à travers nous pour remplir cette mission. Nous n'accomplissons pas cette mission de la même manière qu'Élie l'a fait. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Jean-Baptiste a accompli la mission qui lui avait été confiée, mais il n'a pas fait de miracle. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, versets 40 et 41. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Notez que même si le deuxième Élie n'avait fait aucun miracle, il était quand même venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. L'une des questions dont nous voulions débattre était « Monsieur Herbert W. Armstrong était-il l'Élie qui devait venir ?» Plusieurs églises de Dieu exigent que vous croyiez cela si vous tenez à être un membre de leur organisation. Monsieur Armstrong était certainement un fidèle apôtre de Jésus-Christ. Il a servi Dieu fidèlement pendant plus de 50 ans. Il a prêché l'Évangile avec force et a témoigné personnellement aux dirigeants du monde. Bien sûr, il est mort il y a maintenant 33 ans et demi, et les jeunes parmi nous ne savent pas grand-chose au sujet du ministère de M. Armstrong. J'ai ici une brochure intitulée « Herbert W. Armstrong, ambassadeur pour la paix dans le monde ». Elle vient de la Fondation Ambassador, et elle le montre en compagnie de plusieurs dirigeants de ce monde. Si ceux d'entre vous qui avaient moins de 40 ans et qui ne connaissaient pas M. Armstrong aimeraient voir cette brochure, venez me voir après le service et je vous la montrerai. Oui, M. Armstrong a rencontré les dirigeants du monde entier, en particulier l'empereur du Japon, le premier ministre d'Israël, Golda Meir, Margaret Thatcher, ainsi que bien d'autres. C'est une brochure très inspirante à propos de M. Armstrong, un ambassadeur pour la paix mondiale. M. Armstrong a restauré les vérités que l'Église de Dieu avait perdues. Ainsi, le 17 décembre 1983, dans son sermon intitulé « Mission of the Philadelphia Church Era », M. Armstrong a énuméré 18 vérités restaurées. Ce sermon est toujours disponible sur Internet sous le titre du même nom, « Mission of the Philadelphia Church Era ». Dans un article du Living Church News de janvier-février 2002, intitulé « Are you an Armstrongite ?», le Dr. Meredith écrivait, et je cite, « Les divers groupes de l'Église de Dieu, qui observent le sabbat, ont une énorme dette de gratitude envers M. et Mme Herbert W. Armstrong. Pratiquement seuls au début, ils ont été persécutés pendant de nombreuses années et ont connu des difficultés physiques et financières. Mais ils ont travaillé ensemble comme une équipe pour rétablir de nombreuses vérités dans l'Église et pour faire revivre l'œuvre de Dieu. » Fin de la citation. Par ailleurs, à la page 251 de son livre « Le mystère des âges », M. Armstrong écrivait « L'Église primitive, très persécutée et opprimée, mais toujours en vie, dispose de preuves qui montrent qu'elle est toujours cette véritable Église des débuts. » Il donnait ensuite des preuves de son identité en tant que la véritable Église de Dieu, ajoutant « Or, même cette Église avait perdu beaucoup de vérités vitales. Heureusement que depuis 1933, au moins 18 vérités fondamentales ont été restaurées dans la véritable Église. M. Mike DeSimone a fait référence à ces vérités dans un article qu'il a publié dans le Living Church News de juillet-août 2017, article où il a abordé le sujet du gouvernement dans l'Église, précisant que ce thème du gouvernement est l'une des 18 vérités que Dieu a restaurées dans son Église par l'intermédiaire de M. Armstrong. Le 16 janvier 2016, à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de M. Herbert Armstrong, Dr. Meredith donnait un sermon en son honneur. Son titre était tout simplement « En l'honneur de M. Herbert Armstrong ». Notez cependant que certaines églises de Dieu exigent que vous croyiez que M. Armstrong était l'Élie qui devait venir. De fait, M. Armstrong lui-même croyait qu'il faisait le travail d'Élie. Je vous ai déjà montré que nous, dans l'Église du Dieu vivant, nous accomplissons le travail et la mission d'Élie. À la page 348 de son livre « Le mystère des âges », parlant du concept qu'il était l'Élie à venir, M. Armstrong a dit, et je cite, « Mais, pour préparer le chemin, en vue du deuxième avènement de Christ, il y aura un autre messager dont Élie était un type. Ce sera une voix qui criera dans le désert spirituel de confusion religieuse qui régnera dans le monde, afin de préparer le chemin pour que le roi des rois et seigneur des seigneurs, glorifié et spirituel, puisse venir, revêtu de la puissance suprême et de la gloire de Dieu. Il viendra alors vers son temple spirituel qu'est l'Église, Éphésiens chapitre 2, verset 21, afin de réellement rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Ainsi, M. Armstrong se définit comme cette voix qui crie dans le désert de confusion religieuse qui règne ici-bas. C'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Mais M. Armstrong était-il l'Élie qui devait venir? Il a certainement aidé à préparer le deuxième avènement de Christ comme nous le faisons. Dans le sermon que Dr. Meredith a donné il y a 18 ans et dont le titre était « La question d'Élie », il a dit, et je cite, « Est-il possible que le dernier Élie soit quelqu'un qui mourrait 20 ou 30 ans avant le jour du Seigneur? Se pourrait-il qu'il soit quelqu'un que toute une génération de jeunes n'aurait jamais connu? Autrement dit, cet Élie pourrait-il avoir manqué à toute une génération précédant le jour du Seigneur? Pensez-y. Nous avons déjà mentionné que Jean-Baptiste chevauchait le ministère de Jésus-Christ de 6 mois. Christ a commencé son ministère et Jean-Baptiste a été décapité environ 6 mois plus tard. Mais pendant la grande tribulation et le jour du Seigneur, les deux témoins prophétiseront pendant 1260 jours, et cela jusqu'au retour de Christ. Ils seront laissés pour morts à la vue de tous pendant 3 jours et demi, puis ils seront ressuscités. Dans un article de notre revue LCN de janvier-février 2019, M. Gerald Weston faisait cette réflexion. Que penser? Certains croient que M. Herbert Armstrong était l'Élie à venir, mais plus le temps passe, moins cela est probable. Soulignons que sa mort remonte à plus de 33 ans, au début de 1986. Il a certainement fait un travail semblable à celui d'Élie, mais a-t-il accompli la prophétie de Malachie 4? Seul le temps le dira. Pour sa part, Dr. Meredith a aussi déclaré « Nous pensons que M. Armstrong a fait un travail semblable à celui d'Élie. Comprenez-moi bien. Par là, je veux dire qu'il prêchait avec puissance et ramenait un certain nombre de personnes dans les voies de Dieu. Sur une nation de 240 ou 250 millions d'êtres humains, nous en avions 150 000 dans l'Église durant son ministère. Mais, comme il l'a souligné plusieurs fois, il ne pensait pas que la moitié de ces gens étaient convertis. Nous croyons que M. Armstrong a rempli bon nombre des éléments de la mission d'Élie, qu'il a fait un travail semblable à celui d'Élie, et nous marchons dans ses traces en faisant de même, comme je l'ai déjà souligné. Frères et sœurs, nous remercions Dieu pour le puissant ministère que M. Armstrong a exercé. Il en a ramené beaucoup vers le vrai Dieu, et il a fidèlement suivi les instructions de Christ. Ainsi, il a prêché l'évangile du royaume de Dieu dans le monde en tant que témoignage, et il a aussi fortifié les membres. Dr. Meredith a suivi les traces de M. Armstrong, dirigeant fidèlement l'œuvre de Dieu pour qu'elle accomplisse les mêmes éléments de la mission d'Élie. Sous la direction de M. Gerald Weston, nous nous efforçons aujourd'hui de remplir ces mêmes éléments de la mission d'Élie. Nous en appelons beaucoup à la repentance et nous tournons le cœur des gens vers le vrai Dieu et vers notre Sauveur Jésus-Christ. Ce faisant, nous accomplissons des éléments majeurs du travail et du ministère d'Élie. Dr. Meredith a observé que Moïse et Élie sont souvent mentionnés conjointement dans les Écritures, comme je l'ai mentionné précédemment. Je voudrais à présent que nous nous tournions vers la vision de Moïse et d'Élie. Vous savez sûrement où cela se trouve. Alors, allons-y. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, c'est dans Matthieu chapitre 17. Un passage très inspirant. Au cours de nos voyages en Israël, nous sommes allés au mont Tabor, qui passe pour le lieu traditionnel où eut lieu la transfiguration, bien que je doute que quiconque puisse le confirmer pleinement. Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. On pourrait se le demander, comment savait-il qu'il s'agissait de Moïse et d'Élie? Une chose que cela nous apprend, c'est que notre identité sera toujours reconnaissable dans le royaume, même si nous serons alors changés. Glorifié et immortel, on pourra toujours nous identifier. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'était une vision du royaume de Dieu à venir. Ce que Jacques, Pierre et Jean ont vu était Christ glorifié, ainsi que Moïse et Élie dans le royaume de Dieu. C'était annoncé dans Matthieu chapitre 16, verset 28. Matthieu 16, verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Pourquoi Christ leur a-t-il montré Moïse et Élie dans cette vision? Parce qu'ils occuperont des positions de tout premier rang dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu et dans la famille de Dieu. Abraham, Isaac et Jacob seront très probablement au-dessus d'eux cependant. En effet, dans Matthieu 22, verset 32, Jésus dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », soulignant ainsi toute la puissance de ces trois noms dans la hiérarchie. Nous supposons donc que, dans le royaume, sous Jésus-Christ, il y aura Abraham, Isaac et Jacob, mais que Moïse et Élie y occuperont aussi une place importante. Matthieu 17, verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Évidemment, il y a ceux qui prétendent que ce que les disciples ont vu prouve que Moïse et Élie étaient alors au ciel. Non, bien sûr, c'était une vision qu'ils avaient vue. Verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. » Quand il est question de rétablir toute chose, on parle évidemment de vérité spirituelle. Verset 12. « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Il est ici question de Jean-Baptiste, et les disciples ont compris que c'est lui qui était l'Élie qui devait venir, ce deuxième Élie, comme nous l'avons déjà dit. Oui, le deuxième Élie, Jean-Baptiste, celui qui n'a pas fait de miracle, et dont Christ a pourtant dit qu'il avait tout restauré et qu'il avait préparé un peuple pour le Seigneur. Mais la prophétie de Malachie concerne un Élie du temps de la fin, avant le jour du Seigneur. Qui seront les serviteurs de Dieu juste avant le jour du Seigneur? Souvenez-vous que l'Église sera alors quelque part dans un lieu désertique. De ce fait, elle ne pourra pas exercer une influence proéminente dans le monde. Mais qui sera dans une telle position? Les deux témoins. Tournons-nous vers Apocalypse chapitre 11. Quels seront les derniers serviteurs de Dieu à préparer le chemin du Seigneur? Dans Apocalypse 11, verset 1, Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, dit, Apocalypse 11, versets 1 et 2, « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Nous savons donc que Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens pendant 42 mois. En fait, c'est l'une des quatre activités majeures qui se dérouleront pendant ces 3 ans et demi. Note du traducteur, M. Ames parle maintenant d'une brochure qui n'est pas encore disponible en français. Son titre est « Armageddon et au-delà ». Dans la partie centrale de la brochure se trouve un tableau qui montre les différentes étapes prophétiques qui marqueront les 2 ans et demi de la Grande Tribulation et l'année du jour du Seigneur qui suivra. 4 activités se dérouleront simultanément pendant ces 3 ans et demi. La première, qui montre Jérusalem piétinée par les païens, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 11, verset 2. La deuxième est l'activité que poursuivront les deux témoins pendant 1260 jours. Voyez pour cela Apocalypse 11, verset 3. La troisième concerne l'Église au désert pendant 3 ans et demi, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 14. Enfin, il est dit de la bête qu'elle continuerait ses activités pendant 42 mois. Apocalypse 13, verset 5. Notez cependant qu'à ce moment particulier, seuls les deux témoins représentent l'Église et le Dieu Tout-Puissant aux yeux du monde. Poursuivons dans Apocalypse chapitre 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Donc, encore une fois, il s'agit de la même période de 3 ans et demi. Ces deux témoins seront tués, et le monde entier se réjouira, et ils verront leurs cadavres vêtus de sacs. Ceci grâce à des retransmissions en direct à travers le monde. Verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Effectivement, et c'est ce que nous voyons aussi dans 2 Rois chapitre 1, versets 9 à 13, un passage que nous n'aurons pas le temps de lire, mais il y est là encore question d'Élie. Cet Élie, vers qui le roi Achazia avait à plusieurs reprises envoyé un détachement de 50 soldats avec leur capitaine. Lorsque le premier contingent se présenta devant lui, Élie commanda le feu du ciel et ils furent exterminés. La même chose arriva au second groupe que le roi envoya vers Élie. Par contre, lorsque le troisième groupe vint, leur capitaine s'inclina devant Élie pour lui demander de l'épargner, lui et ses hommes. Suite à cela, Dieu dit à Élie d'accompagner ce groupe, qui devait le mener auprès d'Achazia, et à qui il annonça qu'il mourrait, étant donné qu'il s'était tourné vers les dieux païens pour sa guérison, et non vers le Dieu d'Israël. Retenez qu'Élie avait commandé le feu du ciel, et les deux témoins auront ce même pouvoir. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. C'est ce que fit Élie en causant une sécheresse pendant 3 ans et demi. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ce que Moïse a fait dans Exode chapitre 7, versets 14 à 25. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Voilà le témoignage qu'ils rendront durant les 42 mois de la grande tribulation et du jour de l'Éternel. Je vous ai dit que j'allais commenter ce sermon de Dr. Meredith intitulé « La question d'Élie ». Dans ce sermon qu'il avait donné en mai 2001, il parlait des deux témoins et d'Apocalypse chapitre 11. Dr. Meredith y déclare, et je cite, « Ces deux hommes sont assurément une sorte d'Élie et de Moïse, si on considère les choses qu'ils ont faites. Et l'un d'eux est peut-être le dernier Élie. Notez qu'ils auront le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Finalement, ils seront tués, puis ressuscités. » Cette description des deux témoins correspond donc parfaitement à ce que Moïse et Élie ont fait à l'origine. Et ils vont littéralement secouer le monde entier. Le monde entier aura entendu parler d'eux quand ils auront fini leur travail. Il n'y aura pas alors toute une génération qui pourra dire qu'elle n'a jamais entendu parler de ces deux personnages. Ayant cela à l'esprit, il semblerait très présomptueux de notre part de nommer un autre Élie à l'avance, lorsque nous ne savons pas, et que vous ne savez pas, ce que l'avenir présage. Et il serait encore plus présomptueux et incroyablement arrogant d'en faire l'élément central de notre religion, ce que d'autres semblent avoir fait. Encore une fois, nous considérons certes M. Armstrong comme un apôtre et au moins un précurseur de l'Élie finale. Il était au moins ça. Et s'il l'était, il n'était pas le dernier Élie. À noter cependant que l'un des deux témoins est un candidat potentiel pour le titre de l'Élie finale. Et Dr. Meredith, de conclure, « Au fait, je ne suis pas cet Élie. Loin de moi cette pensée que je pourrais être cette Élie. Je veux que cela soit clair. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. J'espère pouvoir servir de ministre pendant encore quelques années, entre M. Armstrong et le dernier Élie, s'il doit y avoir un autre homme pour remplir ce rôle. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce sera quelqu'un de plus jeune, de plus intelligent, de plus beau et de plus puissant que moi. Je le pense vraiment. Élie n'était probablement pas un vieil homme lorsqu'il courut 27 kilomètres au-devant du char d'Achab. Pendant le ministère des deux témoins, l'Église sera protégée dans le désert. Peut-être entendra-t-elle parler des miracles et de la mission accomplie par ces deux témoins. Que fera Élie dans le royaume? Nous savons qu'il aura de grandes responsabilités, comme nous l'avons vu dans la vision de la transfiguration. L'expérience passée d'Élie était en fait en relation avec les écoles des prophètes. Je ne m'y reporterai pas tout de suite, mais Élie était responsable de 3 de ces écoles, celles de Gilgal, de Bethel et de Jéricho, et Élie s'occupait de les administrer. Le New Anger Bible Dictionary dit à propos des écoles des prophètes, 1 Samuel chapitre 19 verset 20, nous apprend qu'il y avait un groupe de prophètes à Rama sous la direction de Samuel, un groupe dont les membres vivaient dans un édifice commun. Les écoles des prophètes avaient donc commencé sous Samuel, mais il y eut par la suite 3 écoles des prophètes sous Élie et Élisée. En effet, la prochaine fois qu'elles sont mentionnées, c'est à l'époque d'Élie et d'Élisée, quand 1 Roi chapitre 20 verset 35 mentionne les fils des prophètes. Ils vivaient alors en grand nombre à Gilgal, Bethel et Jéricho. Ce sont là les 3 endroits où l'on trouvait de telles écoles. L'ouvrage d'Anger dit encore « Une centaine de fils des prophètes étaient assis devant Élisée lors des repas servis à Gilgal. Le nombre à Jéricho était peut-être aussi grand, car selon 2 Rois chapitre 2 verset 7, 50 des fils des prophètes accompagnèrent Élie et Élisée au Jourdain. Il y avait donc ces 3 écoles des prophètes. Ils avaient des étudiants mariés. Le dictionnaire biblique d'Anger précise que ceux qui étaient mariés vivaient très probablement dans leur propre maison. Voir 2 Rois chapitre 4 verset 1. Il y avait donc 3 écoles de prophètes et certains de leurs étudiants étaient mariés. En quoi consistaient leurs études? Étaient-elles juste de nature théologique? Le dictionnaire biblique d'Anger dit ceci. Il est généralement admis que l'étude de la loi et de l'histoire de la direction divine d'Israël constituait une part importante des occupations des élèves des prophètes. L'autre étant la culture de la poésie et de la musique sacrée, ainsi que des exercices en groupe pour la promotion de l'inspiration prophétique. Dans les années 70 ou 80, nous aurions pu établir une comparaison entre les 3 campus du Collège Ambassador et les 3 écoles des prophètes Élie et Élisée. Quelle sera la tâche d'Élie dans le monde de demain? Il a acquis de l'expérience dans le domaine de la formation religieuse, dans la tâche qui consiste à orienter les gens vers le vrai Dieu d'Israël, ainsi que dans l'administration des écoles des prophètes. À la page 349 de son livre « Le mystère des âges », M. Armstrong écrit à propos de l'éducation dans le monde de demain. Il dit « Cette église siège, localisée à Jérusalem, la capitale mondiale de Christ, se verra sans aucun doute confier l'administration du nouveau système éducatif mondial. De même, tout porte à croire que l'enseignement des vérités spirituelles, du véritable évangile, de la conversion spirituelle du monde, sera dispensé à partir de l'Église siège par Élie sous la supervision directe de Jésus-Christ, et cela à l'échelle planétaire. La principale raison pour laquelle Christ reviendra sur Terre, c'est afin de développer son caractère divin en nous, les êtres humains, et pour sauver le monde. Nous attendons avec impatience le moment où le monde entier connaîtra le vrai Dieu. Ésaïe 11, verset 9 dit en effet, « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. » Ce sera une époque merveilleuse, mais le monde devra d'abord être rééduqué, et c'est aussi pourquoi nous devons nous-mêmes être formés en tant que rois, sacrificateurs et enseignants. À la fête des tabernacles, nous lisons souvent Ésaïe chapitre 30, verset 20. Voyons-le, Ésaïe chapitre 30, verset 20. « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Nous avons hâte que soit implanté ce système de rééducation du monde entier. Peut-être qu'Élie aura une grande responsabilité administrative dans ce rôle. Dans sa brochure « Le merveilleux monde de demain », Dr. Meredith a consacré 4 sections au domaine de l'éducation. 1. L'éducation dans le monde à venir. 2. Le nouveau système éducatif. 3. La véritable éducation commence au domicile. 4. Respecter les enseignants. Nous subissons présentement une formation comme enseignants, rois et sacrificateurs pour le monde de demain. Élie dirigea 3 écoles de prophètes, et comme l'a dit M. Armstrong, tout indique que sous Élie, le monde sera encadré spirituellement. Récapitulons. Dans le sermon d'aujourd'hui, nous avons vu que le Dieu Tout-Puissant enverra un Élie des temps de la fin avant l'arrivée du grand et terrible jour du Seigneur, afin de tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, de peur qu'il ne frappe la terre d'interdit, c'est-à-dire de destruction totale. Les 2 témoins accompliront des signes et des miracles semblables à ceux de Moïse et d'Élie. Nous avons aussi parlé de la vie étonnante du prophète Élie, du fait qu'il était humain comme nous le sommes, et que, de même que Dieu a répondu à ses prières, ainsi Dieu répondra aux nôtres. Élie a ramené le cœur d'Israël au vrai Dieu. L'Église de Dieu, sous la direction de M. Herbert Armstrong, de Dr. Roderick Meredith et maintenant de M. Gerald Weston, tourne aussi le cœur des gens vers le vrai Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous mettons l'accent sur la famille. De fait, un des sermons que Dr. Meredith a donné sur ce sujet avait pour titre « L'Église est une famille ». Le royaume de Dieu est le gouvernement de Dieu, mais il est aussi la famille de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. M. Armstrong avait déclaré à juste titre qu'il était une voix qui s'élève dans le désert spirituel de la confusion religieuse qui sévit dans le monde. Nous poursuivons cette même mission aujourd'hui. Dieu ne frappera pas la terre d'une destruction totale parce qu'il reste encore un Élie à venir. Simultanément, Christ a bien dit dans Matthieu 24, verset 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Les élus feront le travail d'Élie et s'acquitteront de la grande commission que Christ a donnée à l'Église. Même aujourd'hui, Dieu a un corps actif d'hommes, de femmes et d'enfants de la foi. Le Dr. Meredith a décrit les 7 points de la commission de l'Église qui inclut l'avertissement d'Ézéchiel à l'Israël moderne. La Grande-Bretagne et les États-Unis sont-ils mentionnés dans la Bible? J'espère que certains d'entre vous ont suivi l'émission « Tomorrow's World Now » du jeudi 1er août 2019, il y a tout juste 2 jours. La semaine prochaine, « Tomorrow's World Now » débutera à 19h, de sorte que jeudi prochain, vous ne verrez pas « Tomorrow's World Now » en direct à 15h comme d'habitude, mais à 19h. Si vous en avez l'occasion, assurez-vous de la regarder. Puissions-nous, frères et sœurs, nous qui sommes rendus au temps de la fin, continuer à tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Puissions-nous continuer à ramener le cœur de milliers, sinon de millions de personnes, au vrai Dieu de la création et au Sauveur du monde, Jésus-Christ. Tournons-nous maintenant vers Actes chapitre 3. Nous attendons avec impatience qu'ait lieu la restauration ultime de toutes choses par le roi des rois. Actes chapitre 3, versets 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Élie a rétabli toutes choses. Jean-Baptiste a rétabli toutes choses. M. Armstrong a rétabli 18 vérités pour l'Église de Dieu. Quant à nous, nous restaurons la vérité de la Bible pour le monde. Mais la plus grande restauration de toutes sera celle de Jésus-Christ. Poursuivons. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Tournons-nous aussi vers Daniel chapitre 12. Dieu nous a promis un avenir glorieux. Puissions-nous continuer à prêcher l'évangile du royaume de Dieu comme un témoignage à toutes les nations. Puissions-nous continuer à témoigner et à enseigner comme le fit le prophète Élie, M. Armstrong, ainsi que Dr. Meredith. Parce que nous lisons dans Daniel chapitre 12, verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Soyons donc reconnaissants pour le puissant ministère du prophète Élie. Soyons reconnaissants que nous soyons en train de prêcher la voie de la justice à plusieurs. Soyons reconnaissants pour tous les prophètes et les apôtres, parce qu'ils ont posé le fondement de l'Église de Dieu d'aujourd'hui, Jésus-Christ étant lui-même sa pierre angulaire, comme on nous le dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Soyons reconnaissants pour l'Élie qui doit venir au temps de la fin pour préparer la voie pour le deuxième avènement de Christ. Il est aussi de notre responsabilité de préparer le monde, l'Église et nous-mêmes individuellement pour ce deuxième avènement de Christ. Nous devons préparer un peuple pour le Seigneur. Frères et sœurs, soyons reconnaissants pour notre appel, comme nous l'avons entendu dans la prière d'ouverture, et participons activement à la grande commission et à l'œuvre et à la mission d'Élie.